Alors, ah, la belle huile d'olive, ça c'est la vôtre.
Oui.
Ben, vous tombez à point nommé, puisque justement, on était donc avec Stéphanie en train de préparer une épaule d'agneau marinée, ouais, comme faisait son papa.
Avec l'huile d'olive.
Avec, entre autres, l'huile d'olive, évidemment.
Oui, oui, oui.
L'agneau va très bien. Et l'ail, alors on change ou pas, non? Haché, d'accord. Et l'agneau appelle l'huile d'olive.
Oui.
L'huile d'olive appelle l'agneau. Ça y est, là, j'ai l'impression de voyager encore.
Eh oui.
L'agneau appelle l'huile d'olive, ça va mieux en le disant. Voilà, Julie Andrieux, c'est Carnet de Julie sur France 3 et 25 années de livres de cuisine, de critiques de presse, d'émissions de radio, de docu télé. La voici qui lance un magazine de cuisine. Elle rejoint la cohorte des visages du petit écran qui sont devenus des marques et qu'on décline dans les kiosques à journaux. C'est intéressant, du papier, oui, du vrai papier, à l'heure où le beau triomphe sur Instagram, un mélange de terroir et de l'autre bout du monde, à l'heure où nos traditions culinaires se sont retrouvées au cœur de la campagne électorale, du goût et du savoir-faire, à l'heure où le local, la saison, le bio sont devenus une préoccupation majeure des chefs. Des chefs, oui, mais quid des Français? Question à Julie Andrieux qui sillonne le pays à la rencontre de nos envies.
L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Bonjour Julie Andrieux.
Bonjour Sonia.
À croquer, vous l'avez appelé, ce nouveau magazine qui sera en kiosque tous les trois mois. On vous voit avec un pull rose en couverture en train de déguster une assiette de spaghettis au café que vous avez concocté. Des spaghettis au café, vraiment?
C'est possible.
Oui, oui, c'est possible. Oui. Je l'ouvre, c'est page 41, les spaghettis au café.
Voilà, une sorte de bolognaise au café. Mais oui, j'ai trouvé ça dans un livre de cuisine italienne traditionnelle que j'ai rebiscoulé, comme dit Michel Guérard, à ma façon. J'aime bien ces vieux termes un peu désuets. Et oui, moi, ce qui m'amuse, il y a aussi les pâtes à la vodka. Mais ça, c'est pas sorti de mon esprit. Ce sont vraiment des recettes traditionnelles italiennes.
C'est ça. Donc en fait,
le café, les Italiens, ça a toujours marché.
Voilà. Hein. Donc de la viande rouge qui mitonne dans une poêle avec deux cuillerées de café bien serrées.
Voilà, alors, que vous ne sentez pas, mais qui vont relever très légèrement, subtilement le plat.
Alors du papier. Pourquoi du papier?
Pourquoi du papier? Pourquoi pas? Est-ce qu'il vous manque pas un peu le papier, vous?
Si.
Ce monde dématérialisé.
Moi, je suis très, très 20e
moi
siècle.
Aussi. Moi, je continue d'acheter des DVD, c'est pour vous dire.
Oui, mais alors là,
voire même des CD. Mais donc, papier, moi, ça me correspond assez. Hein. Mm-hmm. Mais oui, écoutez, on est venu me proposer le projet. C'est vrai que j'y avais pas du tout pensé, moi, au journal. Et parce que j'aurais trouvé ça même un peu présomptueux.
Il faut raconter à ceux qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, mais il faut raconter quand même depuis quelques années que la cuisine, la restauration, les chefs, la critique, les influenceurs, c'est devenu un business phénoménal à travers l'image sur les réseaux sociaux. Donc une image complètement dématérialisée.
C'est vrai, ça l'était déjà dans les livres et dans les magazines. Hein, ça fait
Mais ça, c'est
temps.
Des objets.
Mais voilà, maintenant on a un véritable objet. Alors c'est vrai qu'il a un certain prix, un petit peu moins de 5 euros, mais en même temps, c'est presque un livre.
Ouais.
C'est pour ça que je me suis dit, on a aujourd'hui une hausse du tarif du papier, donc on n'a pas trop le choix, on doit répercuter ces prix-là, mais du coup, faisons un très bel objet, très riche. Il y a 70 recettes, il y a beaucoup de conseils. Et tout le monde me dit, mais qu'est-ce qu'il est costaud. J'ai même
c'est
eu un journaliste
dense.
De Nice Matin qui me dit, mais pourquoi en donner tant dès le début? Je dis, mais vous inquiétez pas, on va continuer d'en donner tant.
Alors, ce qui est passionnant quand on parle de nourriture en ce moment, c'est que la question du manger sous toutes ses formes s'est invitée dans la campagne électorale. Écoutez Fabien Roussel, candidat communiste.
Un bon vin, une bonne viande, un bon fromage, pour moi c'est la gastronomie française, mais pour y avoir accès à ce bon, à cette bonne gastronomie, il faut y avoir des moyens. Et donc le meilleur moyen de défendre le bon vin, la bonne gastronomie, c'est de permettre aux Français d'y avoir accès. Et je dis que le bon et le beau, je pense à l'art, dont on a parlé au début de l'émission, tout le monde doit y avoir accès.
Des petites choses quand même.
Et la déflagration, Julie Andrieux, personne ne s'intéressait à cette campagne. Et voilà un candidat communiste qui parle de viande rouge, de fromage et de vin rouge. Et ça a déchaîné la presse. Ça a déchaîné la presse parce que c'était plutôt l'apanage de la droite, voire de l'extrême droite en ce moment, de revendiquer au nom d'une sorte de virilité, de tradition française.
La tête de veau chiraquienne. Hein,
la
notamment.
Tête de veau chiraquienne. Et aujourd'hui, ça serait plutôt la côte de bœuf, hein, si on prend les youtubeurs d'extrême droite. Et puis la caricature d'une gauche quinoa.
La gauche quinoa qui était autrefois la gauche caviar, c'est ça?
Oui, voilà, c'est ça. Qui est devenue plus altère et peut-être, plus...
Oui, oui, mais bien sûr que c'est un enjeu. Alors moi, je dirais que c'est... Est-ce que c'est plus cher de manger bien? Je ne sais pas. Je pense que ça nécessite de se poser des questions, d'essayer de comprendre et de trouver des producteurs, des fournisseurs autour de chez vous. Mais il y en a partout en France, je suis bien placée pour le dire. Hein. 250 émissions des carnets de Julie dans toutes les régions de France. Aujourd'hui même, sur le site du ministère de l'Agriculture, vous avez répertorié tous les producteurs qui sont autour de chez vous, c'est vraiment facile. Alors, c'est vrai que ça prend un peu de temps, mais quel plaisir d'aller découvrir un maraîcher qui va vous raconter le terroir qui est le vôtre aussi, qui va vous raconter qu'est-ce qui pousse à quelle saison.
Et en même temps, la question du pouvoir d'achat et de l'inflation galopante prix de produits de première nécessité, elle vient percuter votre métier de plein fouet.
Évidemment, mais elle est aussi répertoriée dans les supermarchés sur les fromages sous vide. Hein. Donc, c'est pas seulement l'apanage des petits artisans et des produits locaux. Donc, je pense que à nous de savoir quel est notre prix. Vous savez, dans les années 50, le budget des ménages pour l'alimentation était à peu près de 50%. 50% du budget des ménages. Aujourd'hui, il doit être de 10%. Donc, à nous de savoir aussi où on met l'argent. Alors, certes, on a la possibilité de voyager davantage, d'acheter des tas de consoles, de jeux vidéo, etc. Mais finalement, peut-être qu'il y a un moment où on va se recentrer un petit peu sur l'alimentation.
Et la question de l'identité, dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es.
Je te dirai qui tu votes.
D'une certaine manière. Quand vous fabriquez on peut en douter.
Entre nous, qui ai beaucoup voyagé et qui ai partagé la table de beaucoup de gens, je suis pas sûre que ce soit une segmentation. En revanche, là où il y a effectivement une différence, c'est dans la transmission. Moi, je l'ai pas subi cette transmission, je l'ai pas vécue puisque ma maman ne cuisinait pas, elle considérait que c'était complètement secondaire.
Veniez d'un milieu très bourgeois.
Je viens d'un milieu très bourgeois. Elle aurait détesté que vous disiez ça parce qu'elle était en rupture avec ce milieu bourgeois. Mais certes, c'était un milieu bourgeois, mais elle était comédienne, elle m'a élevée dans un esprit plutôt bohème. Mais bobo peut-être, on pourrait dire aujourd'hui, mais elle descendait de ce milieu bourgeois dont elle essayait de casser les codes, et notamment celui de la cuisine, qui pour elle était le symbole de l'asservissement de la femme aux tâches ménagères. Donc elle m'a dit, mais de toute façon chérie, en 2022 peut-être, on mangera des pilules, donc ça ne sert à rien de cuisiner, on mangeait des surgelés.
Vous qui posez à presque toutes les pages
Alors c'est une demande du groupe de presse, c'est pas moi qui ai voulu.
Mais vous posez régulièrement en tablier et vous vendez les tabliers. Ce qui est quand même tout un symbole, la femme en tablier. En 2022,
moi je vends des tabliers, dont un tablier en léopard. Hein. Il m'est arrivé de poser nu sous le tablier. Une bonne façon de renouveler l'image du tablier.
Alors, dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es, dans quelle France tu t'inscris. Vous avez mis en couve la blanquette de veau. Écoutez ce qu'on dit de la blanquette de veau sur RMC.
La courbe est très claire. La dégringolade est inarrêtable.
En gros, c'est un truc de vieux, la blanquette.
Bah oui, sauf que ça veut dire que dans quelques années, plus personne ne mangera de la blanquette en France. C'est-à-dire que ce plat de chez nous aura disparu.
C'est grave.
C'est grave. La faute à qui? La faute justement à ces restaurants dont je parlais, qui se disent français et qui ne mettent plus de plats français, mais aussi la faute aux cours de cuisine. Alors je me suis amusé à aller voir sur Internet les 9 meilleurs ateliers cuisine à Paris. Et à la fin, qu'est-ce qu'ils nous annoncent? Après l'atelier, vous ressortirez avec plein d'idées de nouvelles recettes. Fini les traditionnelles recettes de la grand-mère. Il est temps de se renouveler. Les ennemis sont chez nous, les amis. Les ennemis sont chez nous.
C'est vrai que je suis assez d'accord. Je reconnais qu'il vaudrait mieux qu'on maîtrise les classiques avant de pouvoir réinventer, sublimer. Mais je comprends qu'on ait envie de s'amuser en cuisine aussi et que ça peut paraître ennuyeux de faire une bonne blanquette de veau. Mais en réalité, ça fait plaisir à tout le monde. Et puis une fois que vous savez faire la blanquette, vous savez pocher une viande, vous savez faire une sauce, un roux.
J'ai appris en lisant vos bouches.
Et donc ce sont finalement les bases qui vous permettent justement de décliner ces recettes. Qu'on ait envie d'aller plus vite et d'aller vers des choses un peu plus sexy, je peux le comprendre. Mais moi, j'ai fait le contraire d'ailleurs. J'ai commencé peut-être par des plats un petit peu plus aventureux et puis finalement, je suis revenue à la blanquette.
Et puis, vous avez commencé par voyager, Julie Andrieux, avant de venir au terroir, ce qui est intéressant parce qu'on retrouve ces différentes influences dans votre magazine. C'est-à-dire, vous êtes partie très jeune en Inde. L'Inde est au cœur du journal. Donc là aussi, finalement, l'Inde ne s'oppose pas à l'autre.
Pas du tout.
Ni le terroir à l'exotisme ou aux influences.
Au contraire. Non, je pense que l'Inde nourrit l'autre, puis il y a des moments où on a envie d'exotisme et d'autres moments où on a envie d'une bonne blanquette. Mais je suis assez d'accord sur le fait que pour réussir quand même à être une cuisinière à peu près accomplie, faut savoir un minimum de base. Et quand on est en France, faut connaître la recette de la blanquette. Vous verrez, c'est pas compliqué.
Elle est inratable, paraît-il. Vous avez sillonné toute la France, vous avez sillonné plein de pays. Il y a des territoires où on a l'impression que vous ne vous rendez pas
pas beaucoup, voire pas du tout. Par exemple, tous les quartiers très populaires, tout ce qu'on fabrique dans les fast-foods à coups de tacos, kebabs, crêpes, poulet frit, bowls, etc. Je sais qu'il y en a que ça fait hurler, mais en réalité, c'est devenu un vrai lieu d'inventivité.
C'est vrai, mais c'est pas l'objectif de l'émission. Mais je suis complètement d'accord avec vous, bien sûr. Aujourd'hui, c'est là que se créent les nouvelles recettes, les nouvelles cultures culinaires. Mais moi, l'ambition de l'émission des Carnets de Julie, et précédemment de ce que je faisais sur France 5, Fourchette et Sac à dos, c'était justement, pour revenir sur ce que disait le chroniqueur d'RMC, ces recettes qui sont en voie de disparition, ce patrimoine culinaire en voie de disparition, parce qu'il l'est vraiment. Je suis pas sûre que la blanquette le soit quand même, mais il y a beaucoup de recettes qui ont déjà disparu d'ailleurs. Et moi, l'idée était d'aller au contact des plus anciens, souvent, qui détiennent ce savoir-faire et de leur tendre une caméra pour sauvegarder ces recettes.
Vous les mettez à l'honneur dans le journal. Il y a Lucienne dans les Landes qui fait de l'alose au pruneau. Qu'est-ce que c'est que l'alose?
Alors, l'alose, c'est un poisson de rivière que l'on retrouve justement plutôt dans le sud-ouest et qui est délicieux, mais qui a la particularité d'avoir beaucoup d'arêtes. Alors, on la cuisine souvent à l'oseille, parce que l'oseille, paraît-il, dissout les arêtes. Mais là, elle avait une technique extraordinaire, c'est qu'elle le fait cuire 48 heures sur le fourneau, sur le coin du fourneau. Donc finalement, je dis en rigolant que c'est un peu le Monsieur Jourdain de la cuisine. Elle a inventé la cuisine, la cuisson basse température sans le savoir.
Et la cuisine moléculaire.
Et la cuisine moléculaire, parce qu'elle le cuit avec un vin doux de la région, un loupiac, avec des pruneaux. Et là, on se retrouve dans un registre presque japonais avec la fameuse anguille laquée. Donc c'est une cuisine qui est une cuisine de bon sens finalement avec ce qu'on a autour de nous. Elle s'est dit, tiens, si je la cuis pendant cette alose pendant 48 heures, il y aura plus d'arêtes. Et c'est vrai. Le poisson est confit comme un thon, vous voyez.
Et puis vous avez Edith aussi à la fin du journal qui transmet la recette de sa grand-mère, un gâteau de foie de volaille. Ouais. Donc il y a toujours cette idée de transmission régionale et familiale dans le journal. Je vous fais écouter une recette qui se fait chaque semaine sur le plateau de l'émission Quotidien. Il se trouve que le cuisinier fait un carton sur les réseaux sociaux et ça en dit beaucoup aussi sur les tendances qui triomphent sur Instagram qui ne sont pas forcément les vôtres.
Deux tranches de jambon, quelques tranches d'un fromage qui coule, un oignon rouge, quatre œufs de poule et du sel. Presse bien le riz, je laisse cuire 10 minutes à feu doux. Je la retourne sur une assiette ou sur mon couvercle et je démoule sur une planche à découper. Les images qui suivent sont interdites pour les moins de 16 ans.
Pour ceux qui avaient un doute de ce que c'était food porn, voilà.
Qu'est-ce qu'on appelle le food porn, Julie Andrieux?
Je n'en sais rien.
Cette espèce d'érotisation de la nourriture, ça perd.
Mais parce que
ça suinte.
La nourriture n'a jamais été érotique auparavant. Enfin, il faut relire Flaubert, il faut relire Zola, il faut relire Alexandre Dumas. Ça a toujours été follement érotique.
Alors,
on n'a rien inventé.
Là, on vient d'entendre Juan Arbelez, mais par exemple Diego Alari, qui est un très très jeune chef qu'on a reçu ici il y a pas longtemps et qui a un succès phénoménal sur TikTok. On voit bien quand même que pour obtenir des images immédiatement esthétiques et très 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 sensuelles, on pousse à mort, par exemple, le fromage.
Le fromage qui coule, le fromage filant.
Les sauces, le fromage, voilà.
Les publicitaires le savent bien, c'était déjà le cas il y a 30 ans. Mais mais je suis ravie que ça fonctionne. C'est vrai que moi, je suis pas une folle des réseaux sociaux, mais je m'y mets aussi. Je transmets des recettes sur mes réseaux. Mais je reconnais que, moi, je suis plus dans télé, papier. Et c'est une autre façon de communiquer et je pense que tout le monde y trouve son compte.
Vous dites souvent que vous n'êtes pas très que ça ne vous passionne pas beaucoup la présentation des plats, l'esthétique pour l'esthétique, ce qui triomphe par exemple sur Instagram.
Oui, non, ça ne prime pas dans mon approche de la cuisine, c'est vrai. Moi, je serais plutôt adepte d'un plat bon, savoureux, facile aussi à réussir. L'idée n'est pas d'y passer 24 heures en cuisine, mais voilà, je me suis située sur ce registre-là parce que je savais que je serais pas chef de cuisine, ça a jamais été mon ambition et je pense que c'est aussi ce que les gens viennent chercher chez moi.
Alors justement, je vous fais écouter un petit bout de Maurice Sacco, qui est la nouvelle émission culinaire sur France 3. Donc c'est un tout jeune chef.
Oui, bien sûr.
Et c'est plus précisément sur la cuisson en croûte de sel que nous allons nous concentrer aujourd'hui. Et je vais cuisiner non pas du poisson, mais du panais, que je vais accompagner d'une sauce au coquillage, yuzu et saké.
Avant de cuisiner, je suis d'abord allé chercher du sel dans le marais salant de Philippe.
C'est un vrai plaisir de vous avoir, je veux dire, pour quelqu'un qui fait un produit pour la cuisine, d'avoir des chefs, c'est un plaisir.
Quelle est la différence, Julie Andrieux, entre une recette de chef et une recette de critique ?
Moi, alors, attendez, j'ai été critique pendant 10 ans. Certes, ouais. J'ai commencé par ça, mais aujourd'hui, je ne le suis plus. Aujourd'hui, je suis journaliste culinaire. On m'a remis un prix en Espagne sous ce titre-là, donc je l'accepte volontiers. Mais non, c'est pas une cuisine de chef. D'abord parce que je n'œuvre pas dans un restaurant, je l'ai jamais fait,
jamais,
et
ouais.
J'ai pas l'ambition une fois de plus de le faire. Et puis, non, moi, j'essaye de faire un travail peut-être un peu plus anthropologique, comme je vous le disais, d'aller chercher des recettes anciennes, ce qui m'empêche pas de faire aussi des recettes de demain, j'espère, ou en tout cas d'actualité. Mais il
avec
me semble
toujours l'histoire des plats, l'histoire de la pavlova. C'est si bon.
L'histoire de la pavlova, inventée en l'honneur d'Anna Pavlova, cette danseuse qui était en visite en Australie. C'est-à-dire que la cuisine raconte des, tout raconte des histoires, mais la cuisine en particulier. Et puis, on le disait, c'est très intime. Donc, quand on tend un micro à quelqu'un et qu'on lui demande de parler de ses goûts, de ses dégoûts, de son rapport à l'alimentation, il se livre d'une façon très intime et qui n'est jamais dérangeante. Donc, moi, c'est un médium, finalement. C'est une grille de lecture du monde. Je pense que alors, je pourrais encore décliner mon métier de 100 façons différentes.
La cuisine est pleine de mots. Et comme la cuisine a beaucoup de succès avec les émissions de cuisine, les gens se mettent à utiliser des mots qui n'existent pas du tout. Ils pâtissent, enfin bref,
ouais,
etc.
Ouais,
etc.
Ouais.
Et alors vous,
des néologismes aussi, beaucoup.
Voilà, il y en a.
Et puis des expressions toutes faites. Hein.
Que vous détestez. vous le dites dans le magazine. Alors on part sur...
Ah là là. Ah. Alors je vais vous confier une anecdote. J'étais il y a 2 jours avec
le
Michel
serveur
Guérard.
Qui vous dit bonne continuation.
Voilà.
Ça vous exaspère.
Donc j'étais à Eugénie Les Bains avec Michel Guérard et on a dîné.
Michel Guérard, c'est un immense chef.
Un immense chef, 3 étoiles depuis, je ne sais pas, sans doute plus de 50 ans, et qui est aussi un ami, un modèle pour, je pense, toute la profession. Et ce jeune serveur est arrivé en disant, alors là, nous sommes sûrs, citant le plat. Et j'ai vu Michel qui s'est cabré, qui dit, oh, je vous en supplie, non, on n'est pas sûrs. Trouvez un autre mot, on a imaginé une recette, on vous propose. Mais bon, voilà, et ça arrive dans toutes les professions. Mais c'est vrai que je trouve que dans cette transmission qui s'opère dans toutes les écoles culinaires, Ferrandi à Paris et d'autres, on pourrait aussi apprendre non seulement la blanquette de veau, est-elle encore d'ailleurs transmise, je ne sais pas, mais aussi aux gens à s'exprimer avec un vocabulaire déjà tout simplement français et puis un tout petit peu imaginatif, quoi, ne pas utiliser ces mots valises en permanence.
C'est
mais
ça.
Bon, c'est un petit coup de gueule, on en a tous sur différents sujets, voilà, c'est ma marotte, je fais
voilà.
Les 50
alors, vous
ans,
n'aimez pas la mayonnaise en pot, alors là, vous n'aimez vraiment pas, et la mayonnaise revient tout le temps, c'est-à-dire dans les SOS, il y a comment faire que l'œuf prenne et que la mayonnaise prenne.
Mais la mayonnaise est un sujet pour tous les Français, non?
Oui.
Je me trompe
moi,
pas.
Moi, je suis archi d'accord.
Comment faut-il faire pour que ça prenne? Moi, je la fais avec mes enfants, la mayonnaise. Ça les amuse beaucoup. Et alors, il y en a un qui fouette, l'autre qui verse doucement. Il y a plein de trucs. Vous voulez que je vous les énumère maintenant? alors, déjà, sortir
moi,
les œufs à l'avance.
J'ai réussi ma première mayonnaise cette année.
Ah, bravo.
Avant, ça a raté à chaque fois.
Un événement. Il faut sortir les œufs à l'avance pour qu'ils soient à température ambiante, y compris la mayonnaise pour ceux qui la gardent au frais. Il faut mélanger tout ça là aussi un petit peu à l'avance, le temps que la mayonnaise, que la moutarde, ait le temps de cuire le jaune d'œuf, saler un peu. Et puis après, on verse l'huile tout doucement et on peut varier les huiles. On peut utiliser une huile de colza, un peu d'huile d'olive, mais pas trop, sinon on va gagner en amertume. Mais l'idéal, c'est quand même des huiles neutres comme le tournesol.
J'adore, mais pas du tout.
Vous allez appuyer sur un, non?
Pas du tout, je trouve ça formidable. Sachez que si votre poulet rôti est toujours trop sec dans le four, il faut lui mettre plein de légumes.
Alors ça, c'est une astuce de Thierry Marx, encore une fois. Et
il faut le fourrer de plein de légumes frais.
J'en ai gagné beaucoup grâce à lui. Oui, alors il a eu cette idée merveilleuse de dire, plutôt que de mettre, je ne sais pas, des lardons, de la matière grasse à l'intérieur, qui va fondre et qui va dégouliner dans le fond du plat, finalement, et beurrer la sauce, il vaut mieux mettre des légumes pré-cuits, donc qui seront riches en eau, voilà, et qui vont dégager de la vapeur en chauffant, et du coup qui vont cuire le poulet par l'intérieur. Donc il sera cuit par l'extérieur forcément, mais aussi par l'intérieur avec cette vapeur qui va l'attendrir.
À croquer, c'est en kiosque. Merci beaucoup,
merci
Julie Andrieux. Merci beaucoup et joyeuse Pâques.